Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président brésilien Jair Bolsonaro, un grand corona-sceptique parmi les dirigeants mondiaux, a annoncé hier avoir été testé positif au COVID-19. Il a assuré qu'il allait bien et a continué de minimiser la pandémie qui a fait plus de 65 000 morts dans son pays. Pour sa part, le président Donald Trump a lancé officiellement la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie pour ménager la Chine. Son rival démocrate à la présidentielle de novembre, Joe Biden, promet lui d'annuler cette décision de M. Trump au premier jour de sa présidence en cas de victoire. La barre des 60 000 nouvelles infections au coronavirus recensées aux États-Unis en 24 heures a été franchie hier selon l'université Johns Hopkins. Un niveau record qui porte à près de 3 millions le nombre total de cas détectés. Il y a eu plus de 1100 décès dus au COVID-19 sur le sol américain lors des dernières 24 heures et 131 362 depuis le début de la crise. Près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques de l'épidémie selon la Banque africaine de développement. Entre 24,6 et 30 millions d'emplois seront perdus cette année. Le Nigeria, État très dépendant du secteur pétrolier, et la République démocratique du Congo pourraient être les pays les plus affectés du continent selon la BAD. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a indiqué hier qu'il pourrait nommer au Sénat des candidats malheureux qui briguaient un siège de député aux récentes élections pour tenter de restaurer la stabilité après plusieurs semaines de contestation croissante de son pouvoir. Mais ces candidats déçus ont affirmé à l'AFP qu'ils n'étaient pas intéressés par un siège de sénateur. Human Rights Watch a dénoncé ce mercredi des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Djibo, dans le nord du Burkina Faso, et impliquant, dit-on, des forces armées burkinabées. Selon les témoignages d'habitants, la majorité des victimes, dont les corps ont été découverts dans des fosses communes, étaient des hommes appartenant aux ethnies Fulani ou Peul, parmi lesquels les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 5 ans recrutent principalement. En réaction à ces allégations, le gouvernement burkinabé s'est engagé à ouvrir une enquête. Ces exécutions, explique-t-il, ont pu être commises par les groupes armés, c'est-à-dire djihadistes, en utilisant des uniformes et moyens logistiques de l'armée volés lors d'attaques selon Human Rights Watch. En République démocratique du Congo, une centaine de personnes sont mortes depuis le début de l'année dans les violences oubliées du Tanganyika dans le sud-est du pays, dont 18 ces derniers jours dans une zone minière selon des sources locales et les Nations Unies. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur de cette province a indiqué que 12 civils et 6 assaillants avaient été tués lors de l'attaque du groupe armé Apanapale dans la région minière de Mugunga au centre de la province. Le groupe est accusé d'avoir utilisé des toits ou pygmées dans ses attaques, ciblant essentiellement des sites d'exploitation artisanale de l'or. Selon un livre à paraître de Mary Trump, une nièce du président Donald Trump et dont des médias américains ont publié des extraits mardi, M. Trump a grandi dans une famille dysfonctionnelle dirigée par un père dominateur qui a contribué à faire de lui un menteur narcissique. C'est un livre mensonger, a contre-attaqué mardi la porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany. Voilà Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C. La suite de nos informations. La Belgique envisage une commission parlementaire sur l'ensemble de son passé colonial au Congo, au Rwanda et au Burundi. Ces regrets historiques ont été salués par le président de la République démocratique du Congo, plusieurs responsables politiques et des ONG. Michel Joseph.
Dans son allocution télévisée à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance, le président Félix Tshisekedi, 57 ans, a déclaré que le roi Philippe devait être son invité spécial si la pandémie de Covid-19 n'avait pas annulé toute cérémonie à Kinshasa. Il a rendu hommage au souverain belge qui, dans une lettre, a présenté mardi ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. C'est une première historique pour un héritier du trône du roi Léopold II, accusé d'avoir tué 10 millions de Congolais entre 1885 et 1908. Ses regrets mettent du baume sur le cœur du peuple congolais, d'après la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzeza. Cette repentance tardive ne peut être acceptée qu'après des réparations conséquentes de ces atrocités, ajoute maître Hervé Diakissé, porte-parole du mouvement citoyen congolais debout. Il a aussi invité la Belgique à restituer le patrimoine culturel congolais qui se trouve au musée de Tervuren. Il faut identifier certaines provinces qui ont été vraiment victimes des plus graves exactions, comme l'Équateur, où des gens ont été tués et d'autres ont eu des mains coupées, a déclaré pour sa part Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, l'une des plus anciennes organisations de défense des droits de l'homme.
Levé en octobre prochain de l'embargo sur les armes pour l'Iran reviendrait à donner à ce pays une épée de Damoclès sur la stabilité économique du Moyen-Orient, a averti hier à l'ONU le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ces arguments ont été rejetés par Pékin et Moscou. Le point avec Ekia Badou.
Les États-Unis ont remis à leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution pour une extension sans limite de l'embargo sur les armes à l'Iran et qui vient à expiration le 18 octobre prochain. Dans une vidéoconférence hier, Mike Pompeo a tenté de convaincre les autres membres du Conseil. La Chine s'oppose, affirmant que les États-Unis ne sont plus membres de l'accord sur le nucléaire iranien et à ce titre n'ont plus le droit de déclencher un retour de sanctions au Conseil de sécurité, d'après Zhang Jun, l'ambassadeur chinois à l'ONU. La Russie a aussi rejeté « Nous ne pouvons accepter les tentatives américaines de faire légitimer par l'ONU la politique de pression maximale », a dénoncé l'ambassadeur russe Vassili Nebenzia. Le diplomate russe a par ailleurs critiqué le fait que Mike Pompeo a choisi de quitter la vidéoconférence avant son intervention.
Aux États-Unis, les hauts responsables sanitaires ont appelé hier les Américains, en particulier les jeunes, à se couvrir le visage et à éviter les foules afin d'endiguer la pandémie de Covid-19. Le point avec Abdourahman Dia.
Quatre médecins à la tête des grands organismes de santé américains ont témoigné devant des sénateurs alors que la courbe des cas remonte dans plus de la moitié du pays. Le docteur Anthony Fauci, qui dirige l'Institut des maladies infectieuses, a prédit que la pandémie pourrait bondir à 100 000 nouveaux cas par jour contre 40 000 actuellement. Il est évident que nous n'avons pas le contrôle total actuellement, a insisté le docteur Fauci. Le directeur des centres de prévention et de lutte contre les maladies, Robert Redfield, a lancé un appel aux jeunes pour qu'ils respectent les mesures recommandées dans la lutte contre le Covid-19. Plusieurs villes et des États ont décrété une pause dans leur processus de réouverture. Certains ont fermé bars et cinémas, d'autres les plages. Tous les feux d'artifice du 4 juillet, la fête nationale, ont été annulés dans le sud de la Floride. Et le coronavirus s'invite dans la campagne. Joe Biden, le candidat démocrate, a déclaré qu'il n'allait pas organiser de meetings électoraux à cause de la pandémie, contrairement à son rival Donald Trump.
La Minute Éco, Ekia Badou.
La banque centrale des 6 pays de la CEMAC a mis à la disposition des établissements de crédit de la CEMAC 16,6 milliards de francs CFA en février dernier contre 40 milliards de francs CFA en janvier. Selon le bulletin du marché monétaire édité par la banque centrale, 20% de cette liquidité est allée à des banques du Cameroun. Les banques équato-guinéennes et tchadiennes ont capté 12,4 milliards à raison de 6,2 milliards pour les institutions bancaires de chaque pays. Cette situation est liée au durcissement de la politique monétaire observée dès le début de l'année. La plus grande économie du monde montre des signes de rebond plus rapides que prévu, mais les autorités américaines ont signalé mardi que davantage d'aides pourraient être nécessaires pour consolider le retour. En plus des gains d'emploi inattendus de mai, imputables au programme de soutien massif fourni par la loi CARE, de nouvelles données publiées mardi montrent que la confiance des consommateurs a rebondi en juin. Le groupe Air France compte supprimer plus de 7500 postes d'ici à fin 2022, dont 6560 au sein de la compagnie Tricolore et plus de 1000 au sein de la compagnie régionale Hope. C'est ce qu'indiquent des sources syndicales. L'épidémie de Covid-19 a eu des effets également chez le groupe allemand Lufthansa qui annonce 22 000 coupes dans ses effectifs, 12 000 chez British Airways ou encore 10 000 pour l'américain Delta Airlines.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La CAF a tranché depuis hier. Après avoir été reprogrammée entre le 9 janvier et le 6 février, la CAN Cameroun 2021 est encore reportée d'un an, soit à 2022. C'est entre autres l'une des décisions prises par le comité exécutif de la CAF qui s'est réuni en visioconférence. De Yaoundé, voici le reportage de Manuel Gélontap.
Le public sportif ne demandait pas mieux que le maintien de la CAN et le CHAN au Cameroun, avec une participation effective du public.
Si la CAF laissait cette compétition se dérouler maintenant, on devrait être obligé, comme ça se passe partout ailleurs avec les grandes compétitions européennes, qui se jouent à huis clos, chose que les Camerounais ne veulent pas.
La Coupe d'Afrique, ce n'est pas le deuil, c'est la joie et ça remporte aussi l'argent dans notre pays. Quand la maladie va finir, on va jouer.
En janvier 2021, le Cameroun dispute le CHAN au Berkay. C'est un nouveau challenge pour les joueurs. Serge Andoulo, latéral gauche de l'équipe nationale Alprime.
On espère qu'on aura le même. Et c'est à chacun joueur de monter de quoi il vaut pour pouvoir faire partie de cette nouvelle cuvée.
Les nouvelles programmations de la CAN et le CHAN règlent aussi l'épineux problème du Cameroun dans la livraison de ses chantiers sportifs. Bonis Philippe, journaliste et consultant sportif.
En 2019, le pays n'était pas prêt d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. En 2021, on était bien évidemment en passe de ne pas être prêt parce que le stade de Limbé n'est pas fini. Du côté de Garoua, on a des infrastructures qui sont encore en construction et qui ne sont même pas arrivées à 60% des réalisations. J'espère simplement que l'on sera prêt pour la CAN 2022, dont le report est une très bonne nouvelle pour le Cameroun et ses autorités.
Les autorités camerounaises affirment que le Cameroun est prêt et va respecter le calendrier de la CAF. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Bénin, la saison 2019-2020 est annulée après avoir différé la décision de la reprise ou non des championnats de football le 15 juin dernier. La Fédération béninoise de football a enfin tranché. Les détails avec notre correspondant au Bénin, Élisée Nkpatine.
Interrompu depuis plusieurs mois, le championnat de football au Bénin ne reprendra pas. C'est ce qu'on peut retenir du communiqué officiel de la Fédération béninoise de football. Réuni en conférence virtuelle, le comité exécutif de l'instance qui gère le football au Bénin a décidé de mettre définitivement fin aux différents championnats de football en temps suspendu. Et au sujet des conséquences directes de cette décision, le titre de champion ne sera pas attribué et aucun club ne sera relégué. Plus loin, la FBF impose désormais une condition obligatoire remplie à ses clubs de Ligue 1 et 2 avant la participation au prochain championnat, celle de la création d'une société sportive qui va désormais gérer les équipes professionnelles.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 400. 174 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 1474 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé de lever la quasi-totalité des restrictions appliquées jusque-là pour lutter contre la Covid. En plus de l'ouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet, il a annoncé lundi la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu ce mardi à 23 heures. Une décision diversement appréciée par les citoyens. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Pour de nombreux Sénégalais, la décision du chef de l'État Macky Sall est paradoxale en cette période où la maladie est plus que jamais présente. Pour Younous Sarr, la démarche présidentielle est illogique et risque d'encourager les gens à faire fi des mesures élémentaires de prévention.
Peut-être que M. le Président a fait quelque chose qu'il ne nous a pas dit. En tout cas, il y a une forme de paradoxe et ça inquiète beaucoup la population. La logique voudrait que, vu qu'il y a plus de cas, on devrait durcir les décisions par rapport aux mesures barrières. Parce que les gens sont en train de baisser leurs bras par rapport aux mesures qu'ils étaient en train de prendre au tout début de la maladie. Maintenant, il y a un laisser-aller. Maintenant, les gens ne respectent plus les couvre-feux, sortent n'importe comment, à n'importe quelle heure.
Mohamed Ndiaye va plus loin. Cet étudiant de 21 ans pense que la décision du président Sall est incompréhensible si l'on sait que le système sanitaire sénégalais risque d'être submergé par la vague croissante des nouvelles contaminations.
Cette décision sera maléfique pour moi parce que chaque jour, les cas augmentent de plus en plus et la situation n'est pas encore maîtrisée. Et personnellement, je ne comprends pas la décision de notre cher président. Parce qu'il devait conserver l'état d'urgence et assortir le couvre-feu. Sinon, si on continue comme ça, nous irons droit vers l'hécatombe. La situation sanitaire de notre pays n'est pas du tout comme les gens. Parce que nous sommes un pays sous-développé. Nous n'avons pas totalement les moyens qu'il faut pour gérer ces genres de pandémie.
D'autres, comme Sidi Lo, s'inquiètent plus de la santé de l'économie. Pour cet homme d'affaires, la décision du président Macky Sall était certes difficile à prendre, mais inévitable.
Du moment que la crise économique ne pouvait pas continuer quand même, et au vu de la situation globale du monde, on pouvait que s'attendre à cette décision à prendre de la part du président. C'était un ras-le-bol, c'est comme se priver de la liberté. C'était difficile à vivre, on ne pouvait pas allier quand même crise sanitaire et crise économique quand même. C'était difficile à vivre, c'était difficile à allier les deux pour la population. Donc, au vu de la situation globale, mondiale, on ne pouvait que s'attendre à cette prise de position de la part du président.
Certaines mesures restent cependant en vigueur malgré la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu. Le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux publics et les transports. Les frontières terrestres et maritimes resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, tout comme les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos. En outre, le président Macky Sall a annoncé le recrutement de 500 médecins et 1000 agents professionnels de santé. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
La population des quartiers pauvres de Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi au Kenya, a été durement touchée par l'impact économique de la pandémie de coronavirus. Pour soutenir les personnes démunies, l'association Adapt Family met en relation des familles kenyanes aisées avec les moins fortunées. L'initiative a permis de porter secours à plus de 400 familles. Reportage de Raël Ombouor à Nairobi, repris ici par Nathalie Barge.
Avant la pandémie, Annette Okumu, mère de 6 enfants, gérait une pâtisserie et son mari travaillait comme peintre. Quelques jours après l'annonce du premier cas de Covid-19 dans le pays, les ventes de gâteaux ont chuté et son mari n'avait plus de travail. Un de leurs enfants, né avec la drépanocytose, a commencé à tomber malade car il n'avait plus de quoi acheter ses médicaments. Madame Okumu a aussitôt appelé et pris rendez-vous avec le responsable de l'association.
At this time, there's no food, there's no breakfast, no lunch.
Il n'y a pas de nourriture.
pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de souper pendant 2 jours. Je me demandais ce qui arriverait ensuite. Vais-je perdre mon enfant? Et alors, tard dans la nuit, j'ai vu « Adopt a Family » sur les médias sociaux. Et c'est là que j'ai décidé. Assez, c'est assez, je dois parler.
Moses Omondi a fondé Adopt Family au début du confinement en mars.
De nombreux employeurs ont dû fermer boutique afin d'adhérer aux directives. Il y avait des gens qui dépendaient des petits métiers et travaux manuels. La plupart d'entre eux ont perdu leur emploi. Je me suis donc demandé ce que je pouvais faire qui puisse adhérer à la directive du gouvernement. C'est alors que j'ai eu l'idée d'une famille qui soutiendrait aux besoins d'une autre.
Job Bitang, qui est monteur vidéo à Nairobi, a été mis en contact avec Annette Okumu et le jour suivant, la famille a pu bénéficier d'un premier repas.
I decided to support one family by giving them a voucher.
J'ai décidé de soutenir une famille en lui donnant un bon alimentaire et Moses m'a dit que ce bon pouvait nourrir la famille pendant une semaine. Alors, la deuxième semaine, j'en ai donné un autre. Et beaucoup de gens sont venus parce qu'ils savaient que je faisais partie du programme. J'étais parmi les premières personnes qui ont rejoint son équipe.
Début mars, le gouvernement a annoncé un programme de transfert d'argent pour les plus démunis, mais de nombreux habitants du quartier disent ne pas avoir reçu cet argent. Nehemia Amwasha, un responsable de la zone de Gatuekera, dit qu'ils font de leur mieux et que des initiatives personnelles comme celle d'Omondi permettent de combler les lacunes.
Le gouvernement apporte également une aide supplémentaire aux personnes vulnérables qui reçoivent déjà une aide publique, telles que les personnes âgées, les orphelins ou les veuves. Il a très bien fait, mais nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons besoin de partenaires. C'est pourquoi nous pouvons dire que les gens comme Omondi sont les meilleurs au monde.
En moins de 3 mois, Adopt Family a relié 460 familles de Kibera. Outre les transferts d'argent direct, l'association mène des campagnes de distribution de nourriture et gère un programme d'alimentation pour les enfants du quartier. Programme dans lequel Annette Okumu s'est engagée comme cuisinière bénévole.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, le recensement électoral en vue des élections de décembre prochain a officiellement débuté hier mardi. À Bangui, dans le 4e arrondissement, le président Faustin Archange Touadéra s'est fait enrôler, nous dit notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Il est 11h passées, le président centrafricain donne le top de l'opération. Faustin Archange Touadéra se fait enregistrer, photo prise sur une tablette numérique en présence des autorités locales. Pour le chef de l'État, s'inscrire sur la liste électorale est un acte citoyen.
Et ça, c'est un moment incroyable qui montre que nous allons bel et bien aller aux élections le 27 décembre 2020. Je me suis inscrit sur la liste. J'invite tous nos compatriotes pour qu'ils viennent, qu'ils s'inscrivent sur la liste, parce que c'est un privilège que la Constitution leur donne de choisir leurs dirigeants.
Après le passage du président, c'est le tour de la maire du 4e arrondissement. Brigitte Andara appelle les habitants de son arrondissement à s'inscrire massivement sur la liste électorale.
Je l'ai fait ce matin avec joie parce que je dois être un bon exemple pour mes administrés et je vais profiter de votre micro pour lancer un appel à tous ceux qui sont dans le 4e arrondissement que l'enregistrement a commencé et qu'ils doivent se déplacer dans les 13 centres qui sont répartis dans le 4e arrondissement pour s'enrôler parce que si on arrive à clôturer, ils n'auront plus leur nom et ils n'auront pas droit au vote.
Après les autorités, une longue file d'attente se forme. Distanciation physique d'un mètre oblige. Des dizaines de personnes viennent pour s'inscrire. Les 3 agents recenseurs de ce centre expliquent la démarche. Daniel est l'un d'entre eux.
Dès que vous arrivez, il faut montrer d'abord votre pièce d'identité. Si vous avez passeport ou bien
carte d'identité nationale, on doit prendre votre nom, prénom, date de naissance, le nom de votre père, le nom de votre mère, votre arrondissement et le quartier où vous habitez. On doit filmer votre carte d'identité. Si c'est passeport, on doit filmer. Dès qu'on finit avec le film, on doit prendre votre photo sur la tablette. Et sur la tablette, il faut encadrer d'abord la photo que ça sort vert. Et si ça sort vert, immédiatement, la tablette va capturer. Et on va contrôler tout ce que comme information que vous avez nous donné, est-ce que c'est réel à votre présence. Dès que c'est fini, directement on va valider.
Cette opération lancée ce 30 juin à Bangui durera 21 jours et s'étendra progressivement aux autres régions du pays. Julius Rufengwa Dibaba, rapporteur général de l'Autorité nationale des élections.
Nous lançons d'abord Bangui et ensuite, petit à petit, nous allons déployer les agents. Le matériel est déjà sur place d'ailleurs. Petit à petit, nous lançons dans les préfectures de l'arrière-pays de sorte que dans quelques jours plus tard, toute l'étendue du territoire centrafricain, donc les opérations vont commencer partout en RCA.
Le premier tour des élections présidentielles et législatives en République centrafricaine est fixé au 27 décembre 2020. L'enregistrement des électeurs, estimé à plus de 3 millions, est une étape cruciale dans l'amorce de ce processus. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le taux brut de scolarisation de la jeune fille est encore bas au Cameroun par rapport à celui des garçons. En outre, seuls 68% des jeunes filles parviennent à achever les études du cycle primaire, contre 76% chez les garçons. L'on retrouve également moins de jeunes filles dans le cycle secondaire. Cette situation est due à plusieurs facteurs, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules-Tap.
Les entraves culturelles sont citées parmi les facteurs défavorables à l'éducation de la jeune fille au Cameroun. Depuis 2006, des initiatives ont été prises par le gouvernement à différents départements ministériels pour tenter de les endiguer et accroître ainsi le taux de scolarisation de cette couche sociale.
Les filles font face à plusieurs violences.
Philomène Biyina, inspectrice nationale de la pédagogie au ministère de l'éducation de base.
Les harcèlements sexuels, l'exploitation même des filles pour subvenir aux besoins domestiques, les mariages précoces qui continuent dans certaines zones.
Les entraves liées au cas de mariage et grossesse précoce sont cependant les plus récurrents. D'après une étude de 2016 menée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille, 13% des filles camerounaises sont mariées avant 15 ans et 38% avant 18 ans. Un plan d'action financé à près de 14 milliards de francs CFA sur 5 ans a été élaboré pour éradiquer ces fléaux. Jean-Baptiste Yebel est sous-directeur de la promotion et de la protection des droits des enfants.
Il faut bien dire aux leaders qu'au-delà de la sensibilisation qu'on vous fait pour un meilleur encadrement, sachez aussi qu'il y a une loi qui punit désormais ce genre de pratique.
Dans l'enseignement secondaire, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où prévaut un conflit armé depuis 4 ans, connaissent une baisse considérable du taux de scolarisation des jeunes filles. Mais ailleurs, l'on observe quelques améliorations. Bernadette Mbia, directeur de l'orientation de la vie et de l'assistance scolaire au ministère des enseignements secondaires.
La scolarisation de la jeune fille, tout au moins parlant du taux de scolarisation, se rapproche de celui du jeune garçon. Aujourd'hui, une jeune fille ne parcourt plus 7 kilomètres pour se rendre à l'école. Aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, les établissements scolaires ont été multipliés.
Malgré cela, plusieurs jeunes filles sont sorties précocement du système scolaire normal. Elles peuvent néanmoins suivre des formations pratiques dans des centres dédiés, comme dans le centre du 4e arrondissement à Yaoundé.
Nous donnons des formations pour faciliter l'autonomisation de la femme et de la jeune fille.
À Djebou à Sembe Ngono, directrice du centre.
Nous avons ici, entre autres, des formations en hôtellerie-restauration, en industrie-habillement, en soins esthétiques, en coiffure, en TIC, en décoration. Et il y a des formations d'avenir, la maroquinerie.
Pour élever le taux de scolarisation de la jeune fille, le gouvernement distribue désormais dans les établissements publics du matériel d'inclusion à celles qui sont frappées d'un handicap et des rations alimentaires sèches aux jeunes filles vulnérables dans les 4 zones d'éducation prioritaire, la Damawa, l'Est, l'Extrême Nord et le Nord. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.